Puis-je vous inviter à prendre le thé ? Me demande la femme enceinte. Ce serait avec plaisir. Hélas, c'est impossible. J'ai rendez-vous dans une demi-heure avec mon fiancé nippon d'il y a 20 ans. Rinri-san ! S'exclame la traductrice, décidément incollable à mon sujet. En effet, elle pousse un petit cri strident avant de dire « Êtes-vous sûr que ce soit une bonne idée ? Il doit être très en colère contre vous. » Je n'ai pas eu cette impression au téléphone. Il cache son jeu. N'oubliez pas que c'est un Japonais. Cette conversation commence à me mettre mal à l'aise. Je me lève en déclarant que si je ne pars pas aussitôt, je ne serai jamais à l'heure. « Vous avez raison, » commente la traductrice. « N'ajoutez pas un retard à l'offense que vous lui avez infligée il y a 20 ans. » Elle a réussi à me paniquer. Je prends congé des deux femmes, je cours dans la rue et je saute dans un taxi. « Il faut que je sois à 15 h pile à cette adresse, » dis-je au chauffeur d'une voix pressante. Il est 14 h 30. L'homme aux gants blancs demeure imperturbable et conduit la voiture ni plus ni moins vite qu'il n'en a l'habitude. Pour moi, c'est le début d'une tempête sous un crâne. Pourquoi Tokyo est-il si grand et si inextricable? Et surtout, pourquoi ce rendez-vous avec Rinri? La réaction de la traductrice aurait dû être la mienne. Si j'avais un atome de sagesse, jamais je n'aurais pris un risque pareil. La dernière fois que j'ai vu Rinri, c'était il y a 16 ans, en décembre 1996, lors d'une séance de dédicace à Tokyo. Un miracle ineffable s'était produit ce soir-là. Le garçon avait été avec moi d'une délicatesse stupéfiante, et nous nous étions quittés de la plus belle façon qui fut. La moindre des prudences n'était-elle pas d'en rester là? 14 h 35. Il me semble que nous avons avancé d'une 50aine de mètres depuis tout à l'heure, c'est-à-dire un siècle. Ce rendez-vous va être calamiteux et, comme l'a déclaré la traductrice, le retard ne va rien arranger. J'ai toujours eu un énorme problème avec le retard. C'est d'autant plus étrange que je n'ai jamais eu de retard de ma vie. Mon problème ne concerne donc pas le retard, mais l'éventualité du retard. Quand j'ai l'impression que je pourrais avoir une demi-minute de retard, je me sens si mal que je préférerais mourir. Je ne sais d'où me vient cette conviction que mon retard serait un crime inexpiable. Lorsque d'autres se permettent d'être en retard, cela m'agace. Et pourtant, je ne trouve pas qu'il mérite la cour martiale. Seul mon retard est passible de mort. D'où ma propension à arriver toujours avec une avance gênante. Au Japon, cela ne dérange guère. L'usage veut que l'on ait toujours un quart d'heure d'avance. En Europe, et surtout à Paris, où l'immensité du retard est gage d'élégance, c'est embêtant. L'unique explication que j'ai trouvée à ma pathologie est mon appartenance à l'espèce aviaire. Les oiseaux n'ont jamais de retard dans leur migration, leur ponte. Il leur arrive en revanche d'avoir de l'avance. Hélas, quand je suggère cette hypothèse aux hôtes consternés que je sois déjà là, il rit jaune. 14 h 40. Ce n'est pas que l'angoisse d'être en retard. Mon mal vient de plus loin. La vérité est que je fais tout de travers. Même naître. Je suis née à l'envers. Mes parents attendaient un garçon, Jean-Baptiste. Naître par le siège fut ma manière de les avertir sans tarder de leur erreur à une époque où l'on ne pratiquait pas l'échographie. La suite n'a jamais cessé d'être à l'avenant. C'est d'autant plus terrible que je cherche toujours à bien me conduire. Je ne suis pas quelqu'un qui se laisse aller ou qui s'en fiche. Par exemple, Rinri. Ce merveilleux garçon, sans aucun doute l'être le plus équilibré avec qui j'ai été en couple. Bien évidemment, il a fallu que je m'enfuie. Certes, je n'étais pas amoureuse de lui. Mais pourquoi ne l'étais-je pas? Il était beau, charmant, gentil, intelligent, il avait de la classe, de l'humour. Où sommes-nous? Si ce chauffeur de taxi n'avait pas à ce point le visage de la rigueur, je le soupçonnerais de me berner. Je n'ai jamais compris Tokyo. Est-ce parce que c'est si grand? Ni mon esprit, ni mon corps n'en appréhendent la forme. Il faut préciser que dans ce domaine-là aussi, j'ai des lacunes. Même avec Bruxelles, je n'y arrive pas. Tokyo m'évoque la logorée d'un maniaque. Je ne vois pas la structure du discours. Je ne parviens à dégager ni une phrase, ni une ponctuation. Je ne peux que me laisser traverser par ce flot inexorable et absurde. Je peux reconnaître un quartier, comme je peux identifier un verbe, mais je ne sais pas pourquoi il est là. Je veux demander « Qu'est-ce que tu racontes ?» mais Tokyo ne me laisse pas en placer une. Alors, je me résous à ma perte. 14h45. Je voudrais être n'importe qui, sauf moi. Ce chauffeur de taxi Tokyoït, par exemple. Ce doit être rassurant de porter des gants blancs dans sa voiture et d'être à ce point imperturbable. Sur la banquette arrière, il transporte une occidentale aux yeux écarquillés qui ressemble à un volatile hyper tendu, et cela ne l'affecte pas le moins du monde. C'est Zénon Délé qui a raison. Le mouvement est impossible. Achille et la tortue, la flèche qui vole, non, ce ne sont pas des sophismes. Même en dehors des heures de pointe, le trafic tokyoïte empêche les véhicules de bouger. Il y a une illusion de circulation, une illusion infime. Je n'arriverai jamais au rendez-vous, retard ou pas retard, parce que le déplacement n'est pas une hypothèse crédible. C'est encore plus grave. Moi non plus, je ne suis pas une hypothèse crédible. J'ai tant de preuves de mon inexistence. Et elles sont si écrasantes que je ne les exposerai pas. Tout le monde serait convaincu. En vérité, dans ce taxi, il n'y a que le chauffeur. En Europe, je ne prends quasi jamais de taxi seul. On n'appelle pas un taxi pour soi quand on n'existe pas. Le métro bondé me dissout dans la foule. Cela me convient. Là, j'ai outrepassé cette loi et j'en paie le prix. Alors comme ça, tu existes. Tu vas voir. 14h50. Essayons de savoir ce qu'une personne normale penserait à ma place. Vais-je reconnaître Rinri? La dernière fois que je l'ai vu, il était bouffi. Pourtant, quand je pense à lui, je me le représente comme il était en 1989. Mince et beau. Aura-t-il changé? Et moi, ai-je changé? Sûrement. Je ne m'inquiète pas trop, pour une raison simple. Je n'ai jamais eu grand-chose à perdre sur ce plan-là. Pour reprendre la formule génialement méchante de Balzac, à 20 ans, j'étais une jeune fille d'une beauté modérée. Cela ne s'est guère arrangé par la suite. Et si en 1989, Rinri ne cessait de s'exclamer que j'étais belle, ou plutôt que j'étais beau, car son français était encore rudimentaire, c'était parce que l'amour l'aveuglait. 14h55. J'ai envie de vomir. S'il me restait de la voix, je dirais au chauffeur d'aller plutôt à l'aéroport. J'ai un passeport et une carte Visa, rien ne m'empêche de partir. Je ne suis pas en état de rencontrer qui que ce soit, a fortiori le premier garçon qui m'a donné confiance en moi. Dire que j'avais peur d'être en retard. J'espère bien finalement que ce taxi me mène en bateau, pourvu que ce soit un enlèvement. Ce chauffeur travaille pour la Yakuza, qui demandera une rançon à mon éditeur, et ce dernier ne la versera pas, trop content d'avoir trouvé une manière si romanesque de se débarrasser de moi. 14h56. 14h57. 14h58. Je reconnais les abords de l'hôtel. 14h59. Je paie le taxi et descends. À 15h, j'entre dans le hall, Rinri m'attend. Il n'a pas changé du tout. Il est exactement comme en 1989. Mince, beau, sobre, la nuque bien rasée. Le garçon bouffi de 1996 n'a jamais existé. Je viens l'embrasser. Il est très gentil. À peine quelques cheveux blancs. Il a 43 ans. Cela n'a aucun sens. « Je t'emmène, » dit-il. « Dans ta Mercedes blanche ?»« Non, je prends le taxi maintenant. » En chemin, il m'explique que nous allons visiter son école de joaillerie. « Tu es mince, » dis-je. « Oui, quand tu m'as vue en 1996, je n'allais pas bien. » Je comprends de quoi il parle. L'école Mizumo est un immeuble de 6 étages. Comme c'est les vacances, Rinri me le fait visiter en entier. Les ateliers déserts m'impressionnent. Depuis 10 ans, nous nous diversifions. J'ai décidé qu'en plus des bijoux, nous allons créer des chaussures et des vélos, dit-il. Bijoux, chaussures, vélos, quel est le point commun? La beauté, me répond-il comme une évidence. Pour illustrer son propos, il me montre les produits finis. Des bijoux de la préhistoire, des chaussures du 19e siècle, des vélos du futur. C'est magnifique. Le bureau de Rinri est une vaste pièce presque vide et sans fenêtre. Dans le tokonoma, il y a un vase si simple que je n'ose imaginer sa valeur. « J'aime mon métier », déclare Rinri avec fierté. « À présent, si tu acceptes, j'ai préparé un pèlerinage à pied dans Tokyo, sur les traces de notre passé commun. » Nous partons tous les deux. Un pèlerinage à pied dans une si grande ville, cela me paraît aussi fou que s'il me proposait de marcher jusqu'à Jérusalem. Mais c'est peut-être la pénitence que je mérite. Au travers d'un dédale de ruelles, nous arrivons au cimetière d'Aoyama, la nécropole de la mégalopole. Ici reposent ceux qui sont morts dignement. On est soulagé pour eux. En avril 1989, Rinri et moi avions passé une nuit entière sur les cerisiers en fleurs du cimetière d'Aoyama, couchés sur une tombe. C'était interdit, bien sûr. Si nous avions commis cette infraction, c'était sans intention sacrilège. Nous avions seulement constaté que ces cerisiers fleurissaient avec une ardeur particulière.